Il y a cette image assez frappante. Imagine un immense gratte-ciel.
Un truc tout en verre et en acier, ouais.
Voilà, en plein cœur d'un ouragan catégorie 5. On regarde la scène et franchement, on s'attend à ce que tout s'effondre.
Bah ouais, que les vitres explosent sous la pression.
C'est ça. Mais au lieu de ça, la tour, elle oscille. Elle encaisse les rafales, les fondations absorbent les chocs, et une fois la tempête
Elle
passée,
est toujours debout.
toujours debout. Et honnêtement, c'est la métaphore parfaite pour décrire la situation de l'économie américaine en ce moment, en mars 2026.
Complètement. C'est même fascinant à observer.
Parce que bon, il y a des missiles qui volent au Moyen-Orient, les routes maritimes stratégiques sont bloquées, le pétrole s'affole complètement, et pourtant...
Pourtant, Washington ne vacille pas. Les marchés tiennent le coup.
Exactement. Et du coup, notre mission pour cette exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ça, de comprendre les rouages de cette résilience américaine, de voir comment ils traversent ces crises mondiales sans jamais s'effondrer.
Et pour le coup, on va s'appuyer sur une source assez atypique, on va dire.
Ah oui, très atypique.
Ouais, parce que c'est pas tout un rapport du Pentagone ou une note de synthèse d'un think tank super officiel, c'est un fanzine indépendant.
Publié par l'ODJ Media, c'est bien ça?
C'est ça. Son titre est super provocateur en plus. C'est « Pourquoi les États-Unis ne s'effondrent jamais ?» Avec « jamais » en majuscule.
Et l'auteur, c'est Mohamed Haïd Belhassen.
Oui, qui est déjà bien connu pour ses enquêtes un peu underground, notamment l'empire criminel mondial sur le dark web.
Du coup, c'est vrai que prendre un fanzine, un format très do-it-yourself, très libre pour analyser la géopolitique mondiale, ça peut surprendre.
C'est clair, on sort complètement des cadres institutionnels.
Mais c'est justement l'intérêt, non? Ça permet d'éviter les éléments de langage habituels.
Absolument. L'auteur explique que ça lui permet de faire une radiographie purement structurelle, sans aucun filtre. L'idée ici, c'est pas du tout de distribuer des bons points ou de prendre parti dans le conflit actuel entre les États-Unis, Israël et l'Iran.
Surtout pas. On est vraiment là pour analyser de manière neutre la mécanique de cette superpuissance. Observer où sont les murs porteurs et où sont les fissures.
Et il faut dire que le mois de mars 2026, c'est un vrai laboratoire grandeur nature pour tester ça. Le fanzine utilise cette actualité brûlante comme un crash test pour le système américain.
Tout part de cette fameuse nuit du 28 février, c'est ça, hein?
Ouais, 2h30 du matin, à Washington, Donald Trump lâche une vidéo sur Truth Social.
Une vidéo ultra courte en plus. 47 secondes.
47 secondes chrono pour annoncer que les forces armées américaines ont lancé des opérations de combat majeures en Iran.
Ce qui a déclenché le plus grand déploiement depuis l'Irak en 2003. Franchement, l'échelle du truc donne le vertige.
Ah bah c'est massif. On parle de l'opération Fury épique côté américain.
Et lion rugissant côté israélien, ouais.
Voilà. En 24 heures, ils ont frappé plus de 900 cibles. Des bases de missiles, de la défense antiaérienne et surtout...
Surtout les sites nucléaires. Fordow, Natanz, Ispahan.
C'est ça. Mais le vrai séisme de cette première vague, c'est l'élimination du guide suprême, Ali Khamenei.
Un bouleversement total. Le pouvoir iranien en place depuis 1979 est touché en plein cœur.
Et la riposte n'a pas tardé. L'Iran a lancé l'opération Promesse Honnête 4.
Une riposte hypermassive.
Massive et surtout dispersée. Et ce qui est inédit, c'est qu'ils ont franchi un cap géographique. Ils ont touché la base britannique d'Akrotiri à Chypre avec un drone.
Donc techniquement, c'est la toute première frappe directe sur le sol européen dans ce conflit.
Exactement. Alors bon, le bouclier antiaérien a fait le job, les Émirats ont intercepté presque tout, on parle de 152 missiles sur 165 et plus de 500 drones détruits.
Mais le message est passé. Le conflit déborde. Et ça nous amène au point clé du fanzine, le détroit d'Ormuz.
Ah, le fameux goulot d'étranglement.
20% du pétrole mondial passe par là. Avec les frappes, le détroit est bloqué, le pétrole prend 15% d'un coup. Logiquement, ça devrait créer une panique totale aux États-Unis, non?
En théorie, oui. Mais en fait, Washington ne panique pas du tout.
Et c'est là que j'adore l'analogie du texte. C'est comme si les États-Unis avaient un cheat code dans un jeu de gestion de ressources.
Un code de triche géant, ouais. Et ce code de triche, c'est la révolution du gaz de schiste.
Parce qu'il faut se rappeler qu'au début des années 2000, ils étaient hyper dépendants du Moyen-Orient.
Totalement. Une fermeture d'Ormuz à l'époque, c'était de l'asphyxie garantie. Mais avec la fracturation hydraulique, tout a basculé. En 2025, ils sortaient 13 millions de barils par jour.
Ils sont devenus exportateurs nets.
Exactement. Donc aujourd'hui, quand Ormuz ferme, le choc est complètement asymétrique. Les Européens payent leur énergie une fortune, les usines chinoises sont pénalisées.
Et pendant ce temps-là, l'économie américaine est protégée. Ils s'infligent moins de dégâts à eux-mêmes qu'à leurs rivaux.
C'est le bouclier parfait. Mais l'auteur explique que ce bouclier énergétique, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Si on remonte plus loin, la vraie première ligne de défense des États-Unis, elle est topographique.
La fameuse idée de la géographie comme destin.
Voilà, c'est une anomalie historique totale. T'as deux océans immenses de chaque côté, l'Atlantique et le Pacifique.
Ce qui rend une invasion terrestre logistiquement impossible.
Impossible. Et au nord et au sud, le Canada et le Mexique, qui ne sont pas des menaces militaires et qui sont super intégrés économiquement. C'est un véritable sanctuaire continental.
Le fanzine cite d'ailleurs une stat hallucinante. Aucun adversaire n'a bombardé le sol continental américain depuis 1812.
Ouais, la guerre contre les Britanniques.
Mais attends, on pense tous à Pearl Harbor en 1941, non?
C'est les réflexes, ouais. Mais Hawaï n'était pas un État incorporé à l'époque, c'était juste un territoire. Donc techniquement, le continent américain est intouchable. Les guerres, les Américains les font systématiquement chez les autres.
Et ça donne un avantage énorme sur la durée. Pendant que l'Europe ou l'Asie se faisaient raser au XXe siècle et devaient tout reconstruire,
l'Amérique, elle, continuait d'accumuler de la richesse, des infrastructures sans aucune interruption. La géographie leur a offert le luxe du temps.
Donc on a la géographie comme bouclier physique, mais il y a un autre bouclier, invisible cette fois, l'économie.
Ah, le budget militaire de 886 milliards de dollars pour 2025 ?
C'est colossal, mais le fanzine dit que la vraie arme de destruction massive, elle ne vole pas, c'est du papier, c'est le dollar.
L'auteur parle même de peine de mort économique via les sanctions.
C'est fou de se dire qu'une monnaie peut paralyser un pays. Comment ça marche concrètement ?
C'est une question de tuyauterie financière. Le dollar, c'est 58% des réserves de change mondiales et 80% des transactions de matières premières.
Donc si tu veux vendre du blé ou du pétrole, ça se passe en dollars ?
Presque toujours. Et pour qu'une transaction en dollars soit validée, l'ordinateur doit passer par une chambre de compensation aux États-Unis.
Sous juridiction américaine, du coup.
Exactement. Donc si le Trésor américain sanctionne un pays, il interdit à n'importe quelle banque dans le monde d'utiliser le dollar avec ce pays.
Et si une banque européenne ou chinoise refuse d'obéir ?
Elle perd son propre accès au dollar. C'est la faillite immédiate. Donc tout le monde obéit, par peur d'être déconnecté.
Mais là, je dois faire l'avocat du diable. On entend constamment parler de dédollarisation, de la montée des BRICS. Ça remet pas en cause ce privilège ?
C'est un super argument et l'auteur l'aborde de front. Il démonte carrément cette idée de multipolarité immédiate.
Vraiment ?
Pourtant, le PIB des BRICS a dépassé celui du G7.
En parité de pouvoir d'achat, oui, c'est un rattrapage réel. Mais pour créer une monnaie de réserve mondiale, il faut plus que du PIB. Il faut une confiance absolue, des institutions transparentes, une libre circulation des capitaux.
Ce que la Chine ne fait pas du tout.
Ben non, Pékin contrôle strictement les sorties de capitaux pour éviter la fuite des richesses. Résultat, le yuan, c'est seulement 2,3% des réserves mondiales. Et puis les BRICS n'ont ni armée commune, ni vision stratégique. L'Inde et la Chine ont même des conflits frontaliers.
Donc le dollar reste roi juste par manque d'alternatives crédibles. C'est exactement ça.
Ok, donc le dollar et la géographie, c'est le bouclier. Mais pour attaquer, pour projeter sa puissance, l'Amérique a une épée.
Ça, l'innovation technologique.
Et là encore, les chiffres sont délirants. Hein. 880 milliards de dollars en recherche et développement juste pour 2025.
C'est plus que la Chine, l'Europe et le Japon réunis.
Et ça nourrit ce que le fanzine appelle la boucle du soft power.
Comment ça fonctionne, cette boucle ?
Bah, le prestige américain, Hollywood, les GAFAM, les universités de l'Ivy League, ça agit comme un aimant mondial. Les meilleurs cerveaux d'Europe, d'Asie ou d'Afrique veulent bosser dans la Silicon Valley ou à MIT.
C'est une captation des talents à l'échelle mondiale.
Voilà. Et ces cerveaux créent des technologies civiles qui ont tout de suite des applications militaires. Cette supériorité militaire protège l'économie, qui finance à nouveau la culture. C'est un cycle sans fin. Et cette technologie, on la voit à l'œuvre dans le conflit de mars 2026. Le document mentionne un truc. Le programme JAD2C.
Ouais, un acronyme bien technique. En gros, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle, générative, directement dans le commandement militaire.
Donc, au lieu qu'un général passe des heures à analyser des rapports...
L'IA digère des milliards de données, images satellites, interceptions radio, en temps réel. Elle propose les cibles instantanément aux bombardiers furtifs B2 Spirit.
C'est ce qui explique comment ils ont pu pulvériser 900 cibles iraniennes en une journée.
La rapidité est foudroyante, oui. Et tactiquement, c'est imparable. Ils ont éliminé Khamenei et bombardé l'Assemblée des experts. 88 membres neutralisés d'un coup.
Dans n'importe quel état normal, tu coupes la tête, le corps s'effondre. Comme en Irak avec Saddam Hussein.
Mais en Iran, en 2026, le régime ne s'effondre pas.
Et ça, ça m'a fait penser à une métaphore. C'est comme essayer de tuer l'hydre de Lerne avec un scalpel laser ultra high-tech. Le scalpel est parfait, il coupe la tête principale d'un coup. Mais l'organisme est décentralisé. Tuer Kamané, ça ne tue pas les milices ou le Hezbollah.
C'est une excellente image. Et militairement, ça porte un nom. La stratégie de défense mosaïque décentralisée.
L'Iran avait anticipé le coup.
Totalement. Ils ont étudié les 20 dernières années d'intervention américaine. Ils savaient que leur communication serait brouillée dès les premières minutes.
Donc ils ont prédélégué les ordres de tir.
Exactement. Les gardiens de la Révolution, les milices locales, ils n'ont pas besoin d'un ordre de Téhéran pour riposter. Ils agissent comme des cellules autonomes.
Ce qui rend l'hypertechnologie américaine, un peu inutile face à ça.
L'IA peut repérer un radar allumé, mais elle ne peut rien contre un groupe armé caché dans un tunnel qui agit de sa propre initiative.
Et c'est là qu'on touche à la véritable faille du système américain, soulevée par l'auteur. Le vrai danger, c'est pas de perdre une bataille. Ils ne perdent jamais militairement.
Le vrai péril, c'est le piège de l'enlisement. Le paradoxe de leur puissance, c'est qu'ils peuvent tout détruire facilement, mais ils sont incapables de construire l'après-guerre.
20 ans au Vietnam, 20 ans en Irak, 20 ans en Afghanistan, pour voir les talibans reprendre le pouvoir en un week-end.
Et mars 2026 répète ce schéma. L'opération en Iran était censée durer 4 semaines pour neutraliser le nucléaire.
Mais ça déborde au Liban, à Chypre, dans le Caucase. C'est le chaos.
Une guerre d'usure totale qu'ils ont eux-mêmes déclenchée sans savoir comment la finir.
Du coup, si les États-Unis s'épuisent dans ces conflits sans fin, la question qui se pose, c'est de savoir qui va prendre leur place et tout le monde pointe du doigt la Chine.
C'est le seul adversaire systémique crédible, c'est vrai. Mais l'auteur recadre pas mal les choses concernant Pékin.
Oui, il ne les doit pas comme le rouleau compresseur inévitable qu'on nous décrit souvent.
Parce que la Chine a ses propres failles monumentales. Déjà, ils ont atteint leur pic démographique en 2022. Leur population vieillit à une vitesse folle.
Ce qui casse leur modèle de production de masse.
Ouais. Ajoute à ça une bulle immobilière gigantesque et un retard technologique sur les semi-conducteurs de dernière génération.
Et il y a aussi une rigidité politique, non?
C'est le pire. Le pouvoir est tellement concentré à Pékin que quand ils font une erreur stratégique, ils mettent un temps fou à réagir de peur d'écorner l'image du parti.
Donc la vraie menace mortelle pour l'Amérique, elle ne vient pas de la Chine. Elle vient de l'intérieur.
L'ennemi de l'intérieur, oui. Les fractures internes sont effrayantes en 2026.
On parle d'une dette qui atteint les 34 000 milliards de dollars.
Avec des taux d'intérêt tels que le gouvernement dépense plus pour payer les intérêts de cette dette que pour tout son budget militaire. C'est délirant.
Sans parler du recul de l'espérance de vie, ce qui est fou pour la nation la plus riche du monde, et bien sûr cette polarisation politique extrême.
La fameuse guerre civile froide qui dure depuis 2016. Et ça paralyse l'appareil d'État, même en pleine guerre.
Surtout en pleine guerre. Ce qui s'est passé le 1er mars 2026 avec la chaîne CNN, c'est l'exemple parfait.
La fuite du rapport classifié de la DIA, la Defense Intelligence Agency.
Explique-nous un peu, parce que c'est crucial pour comprendre cette paralysie. L'opération en Iran, au départ, elle est justifiée par la doctrine de la frappe préventive, c'est bien ça?
C'est ça. Une doctrine de l'ère Bush, on frappe les premiers si on fait face à une menace imminente et existentielle.
Sauf que le rapport de la DIA dit l'inverse.
Le rapport affirme, noir sur blanc, que l'Iran n'aura pas de missiles intercontinentaux capables de toucher l'Amérique avant 2035 au plus tôt.
Donc l'argument de la menace imminente s'effondre totalement.
Complètement. La justification légale n'existe plus. Et là, le Congrès s'embrase. L'opposition dénonce une guerre illégale, bloque l'exécutif.
C'est le comble. Une hyperpuissance capable de raser 900 cibles à l'autre bout du monde en quelques heures, mais incapable de s'entendre chez elle sur la légalité du truc.
Mais là où l'analyse du fanzine devient vraiment fascinante, c'est sur la conclusion qui en tire. L'effondrement n'est pas pour demain.
Non, et c'est très contre-intuitif. L'auteur explique que l'Amérique utilise justement ces crises comme processus de création.
La crise créative. La Grande Dépression des années 30 a failli détruire le capitalisme. Ça a donné le New Deal et la classe moyenne.
Le 11 septembre a montré des failles de sécurité énormes. Ça a permis de refondre tout le système de surveillance mondiale.
Et le Covid a mis le système de santé à genoux, mais ça a propulsé le pays dans l'ère de l'intelligence artificielle.
En fait, l'exception américaine, c'est une lutte permanente. C'est pas une victoire statique, c'est une mutation violente à chaque crise.
C'est exactement ça. C'est une dynamique vitale pour eux.
Donc si on résume cette plongée dans le fanzine, on a d'un côté des piliers massifs, les deux océans, le roi dollar, 750 bases militaires dans le monde et une avance technologique écrasante.
Et de l'autre, des failles internes profondes, l'enlisement systématique, la dette abyssale et une classe politique qui se déchire en permanence.
Mais alors, pourquoi ceux qui nous écoutent devraient s'en foutre? Eh bien, parce que cette dynamique dicte absolument tout. Le prix de l'essence, les routes maritimes, la stabilité de l'économie mondiale, comprendre comment les États-Unis absorbent ces chocs sans sombrer, c'est la clé pour anticiper les décennies à venir.
Au lieu de simplement subir l'actualité, ça permet d'en lire la matrice.
Mais ce document soulève une dernière question, vraiment provocatrice, que je veux laisser mûrir dans l'esprit de notre audience.
Ah oui, cette fameuse hypothèse finale.
Si on suit la logique de l'auteur, la force des États-Unis, c'est d'utiliser chaque guerre, chaque crise économique pour se réinventer et muter. Mais alors, et si le véritable danger mortel pour cette hyperpuissance, ce n'était ni la Chine, ni une guerre mondiale, ni l'inflation ?
Et si le pire scénario imaginable, c'était une très longue décennie de paix totale et de stabilité absolue ?
Exactement. Sans aucune crise existentielle à exploiter pour forcer sa propre mutation, est-ce que le moteur de la réinvention américaine ne finirait pas, tout simplement, par rouiller et s'arrêter définitivement ?
L'usure silencieuse d'un système qui n'aurait plus rien à combattre. Franchement, ça donne à réfléchir.